Je vous souhaite la bienvenue et la bonne année pour ceux qui n'ont pas encore vu dans ce lieu de culte. Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que tout. Il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Pourtant, aujourd'hui encore, il nous invite. Il veut partager la vie, notre vie, avec nous. Et il veut que nous partagions notre vie avec lui. Aujourd'hui, nous sommes venus avec plus ou moins de souffrance, de tracas, de soucis, avec plus ou moins de confiance, plus ou moins de foi. Et je vous invite directement à chanter ce chant. Venez le célébrer. Je vous invite à lire le psaume 48. Psaume 48, les 8 premiers versets. Dans la version second, non pardon, dans le français courant, c'est le psaume 47. Cantique psaume, fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les langues, de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite, car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Pour intituler cette première partie de ce psaume, louange au Dieu de la ville. Il est clair que le psalmiste parle ici de Jérusalem, de la ville sainte, de la ville de notre Dieu. C'est la ville du grand roi. De la ville où l'Éternel veut résider et qui a fait l'objet de grandes guerres, mais aussi de grandes libérations. Dieu la fera subsister à toujours. Jérusalem est toujours là en tant que ville, or bien maltraitée, bien divisée, bien écorchée, mais toujours témoin que Dieu est descendu dans l'histoire des hommes. C'est d'ailleurs d'elle qu'est sortie l'Église de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce Dieu unique qui veille sur son Église, qui a veillé aussi sur cette ville et qui veille aussi sur nous. C'est ce Dieu unique qui veille encore aujourd'hui et que nous voulons louer. Digne es-tu, Seigneur. Continuons la lecture du psaume 48, verset 10. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Dans cette partie, nous voyons la même idée qui traverse toute la Bible. Dieu est partout, au milieu du temple, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est bon, et sa louange retentit partout. Qu'il en soit de même pour nous, que notre louange retentisse partout, au départ de notre temple, et qu'elle remplisse le monde entier. Car notre Seigneur n'a pas de limite, et même dans ses jugements, il est toujours aussi bon. Et je vous invite à chanter ce chant, il est beau de louer le Seigneur, et de rentrer dans un moment de louange, de prière pour notre Dieu. Il est beau de louer le Seigneur. 1 roi 10, 14 à 27. Ce matin, j'ai pris deux lectures, je dirais assez longues, mais c'est pour mieux comprendre le contexte. Si on rate un morceau, je vais parler de deux rois, Salomon et Josaphat. Josaphat, côté chronique, il y a 3 chapitres, donc je vous éviterai quand même de lire 3 chapitres. Nous lirons donc d'abord dans 1 roi 10, 14 à 27. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, plus ou moins 20 tonnes. J'ai fait la conversion parce que, comme ça, c'est un peu surprenant quand même. 20 tonnes d'or chaque année. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'argent, 600 cycles d'or, c'est-à-dire 7 kilos par bouclier, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Les mines d'or, c'est pas où on va chercher l'or, hein, c'était une partie, un morceau, quoi. Et ça valait plus ou moins 2 kilos d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il n'en s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Il n'en s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. Regardez bien ce verset. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Incroyable quand même. Hein. Pas le cas maintenant. Hein. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut grand dans tout... Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent, gardez bien ce verset, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. On a fait des choses bien. Jusque-là, cette première lecture. La deuxième lecture, 1 roi 22, 42 à 50, et suivant les versions, on va jusque 51. Roi 22, 42. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient, encore depuis le temps d'Asa son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des bateaux, des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Ijon-Guéber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons encore remettre devant ces textes qui sont peut-être que des textes d'histoire. Mais combien nous pouvons en tirer ton message. Seigneur, que je sois un simple haut-parleur aussi bien pour moi que pour mes frères et sœurs, et que ce soit ton message, que ce soit ta parole qui passe. Et qu'à toi, encore une fois, dans tout ça, revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans nos lectures de ce matin, nous avons un morceau de la vie du roi Salomon et un petit résumé de celle de Josaphat. Et pour ce dernier, bon, comme j'ai déjà dit, vous avez beaucoup plus de détails en allant lire le chapitre des Chroniques 17 à 20. On nous décrit là aussi un roi riche. Josaphat était riche. Et qui suit l'Éternel de tout son cœur, comme le faisait David. Nous sommes donc en présence de deux rois, deux règnes glorieux, distants de plus ou moins une centaine d'années. Mais ce qui m'a arrêté dans ces deux passages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on parle de bateaux, on en a parlé il y a 15 jours, les navires de Tarsis. Ah, les navires de Tarsis. Nous connaissons déjà, j'ai fait une petite carte parce que je crois que c'est un peu plus clair, parce qu'expliqué comme ça, on dit là-bas. On connaît Tarsis par le livre de Jonas, c'est-à-dire la destination que le prophète a choisie pour échapper au plan de Dieu concernant Ninive, la grande ville de Babylone. Il est descendu à Jaffa, il voulait s'enfuir à Tarsis. Et suivant les scientifiques, parce que archéologues aussi, on situe Tarsis, comme vous voyez, au sud de l'Espagne. Il y en a qui le situent en Sardaigne, il y en a qui le situent en Sicile, peu importe, c'est par ça le propos le plus cohérent est en Espagne. Mais ces bateaux étaient surtout des navires de long courrier, comme traduit dans certaines versions. Peut-être que vous avez vu la version « les navires long courrier » et pas « les navires de Tarsis » suivant vos versions. Appelez ça sûrement, probablement, parce qu'ils pouvaient faire de longues distances, vous voyez, entre le port de Tyr et le port de Tarsis, il avait plus ou moins 4000 kilomètres, mais bon, pour faire ravitailler, il faisait le long des côtes, il n'allait pas en direct. Il faisait ce qu'on appelle du cabotage. Donc, pour info, Tyr est un port phénicien, actuellement le Liban, et au nord d'Israël, et c'est souvent cité, peut-être que ça vous a frappé, Tyr et Sidon sont souvent cités ensemble. Et même Jésus dira, s'il y avait les miracles qui avaient été faits en Tyr et Sidon avaient été faits à Jérusalem, elle se serait convertie. Donc, petite claque au passage. Bref, ces navires pouvaient effectuer de très grandes distances pour ramener l'or et les richesses de ceux qui le possédaient. Alors que les premiers constructeurs, c'était les Phéniciens, c'était ce type de bateau, comme ça. Étrangement, les navires de Salomon, les Phéniciens fabriquaient leurs bateaux à Tyr. Étrangement, les bateaux de Salomon et de Josaphat n'étaient pas fabriqués en Méditerranée à Tyr, mais ils étaient fabriqués un peu plus bas. Et si nous lisons dans 1 Roi 9, 26... 28, je vous lis, concernant Salomon, voilà, le roi Salomon construisit des navires à Etjon-Geber. Je vous ai mis sur la carte où se trouve Etjon-Geber, près d'Elot, sur le bord de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya ses navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, ses matelots connaissaient la mer. Ils allèrent à Ophir et ils prirent de l'or, 420 talents qu'ils rapportèrent au roi Salomon. On est toujours dans l'or qui ramène, évidemment. Et notre texte que nous avons lu, dans 1 Roi 22, concernant Josaphat, Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir, donc la même destination, 100 ans après, il y a toujours de l'or. Mais il n'y en a point parce que les navires se brisèrent à Etjon-Geber. Il faut arriver à parler de ce Etjon-Geber. C'est sur la pointe est, vous avez vu là, enfin, si c'est clair, oui, hein. Sur la pointe est de la mer Rouge. Et on en cite déjà dans Deutéronome, on cite déjà cette ville, parce que les Hébreux sont passés par là. Donc venant du désert, de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge ici,
Ils sont arrivés là, et puis ils ont rentré dans le pays d'Israël, ici.
Donc ils ont fait un petit détour. Ils passaient déjà, juste pour info. Il y a 15 jours, je vous parlais d'arriver au port désiré. Je suppose que vous en souvenez quand même. Si pas, vous pouvez aller réécouter sur le site de l'Église. Je parlais du port désiré. Ici, nous sommes dans le cas du port de départ. C'est là que le bateau était fait. Et c'est là qu'il démarrait. Le navire de Tarsis démarrait de là. Voilà. Il ne partait pas de Tarsis, il partait de là. Et si nous regardons la carte d'un peu plus près, c'est un peu agrandi, il n'y a pas de communication entre les deux. De là à là, il n'y a pas de communication. Donc ça, le canal de Suez n'était toujours pas fait, hein. Pas exagéré quand même, hein. Donc il devait faire tout le tour pour aller en Méditerranée. Mais c'était pour dire quand même qu'il pouvait faire quand même près de 4000 kilomètres pour aller chercher de l'or, de l'ivoire, des singes, des paons. Pourquoi est-ce qu'il a cherché des paons? C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Des éléphants, et le texte nous dit qu'ils allaient à Ophir. On n'a pas trouvé exactement. Les grands scientifiques n'ont pas trouvé exactement où ça se trouvait. Peut-être en Somalie, en Arabie, au Yémen. Et on dit même que Salomon a été jusqu'au Pérou. Peut-être, peut-être. Et il a été en Inde. Bon, ce qui est plausible, l'Inde est plausible, parce que on ne trouve que le paon là-bas. C'est un animal de l'Inde. Bon, j'ai fini. Moi, j'ai marqué, eh bien, Jean-Luc, 10 minutes de blabla géographique pour expliquer que ce fameux navire de Tarsis, qui faisait quand même près de 30 mètres de long, était capable de parcourir de longues distances. Enfin, c'était quand même pour remettre dans le contexte et dire, ils vont quand même repartir avec quelque chose d'intéressant sur la géographie. Mais si on lit, voilà la carte qui a normalement été faite par les scientifiques, ouais, il aurait été jusqu'au Pérou et en Amérique, il aurait été partout, Salomon. Peut-être. Tant mieux pour lui. Et je vous propose de lire un roi 17, 14 à 27, parce que 10, 14 à 27, pardon, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores. Oui, pardon, excusez-moi. Donc le roi rendit l'argent. Donc ça, c'est vraiment le verset que j'ai attiré votre attention. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Donc il a distribué, il a fait apporter cet or dans toute la ville. Et ces navires de Tarsis, c'était de véritables bénédictions, vu qu'ils allaient quand même aller chercher de l'or et qui a été donné pour tout le peuple. Et si on pouvait quand même avoir un roi comme ça, hein, si lui pouvait avoir l'idée d'aller chercher de l'or et de nous l'apporter, ce serait peut-être bien. Mais bon, Salomon était autre. Salomon fut un des plus grands rois que tous les rois de la terre, par les richesses et la sagesse. Josaphat, lui aussi, a fait pas mal de choses. Dans 2 Chroniques, je vous lis juste un passage dans 2 Chroniques 17, que vous pourrez aller lire complètement chez vous. J'ai affiché comme ça, ce sera plus facile. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baals. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs pour aller enseigner dans les villes de Juda. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux, des villes pour servir de magasins. Il a fait lui aussi de grandes choses. Il a aussi gagné des grandes batailles. Il a fait aussi enseigner le peuple. Il s'est donné aussi pour son peuple, pour ses villes, pour son pays. Il a éliminé les idoles, il a rendu la paix au pays. Il a fait tout aussi bien que Salomon. Peut-être un petit peu moins, mais il a fait tout aussi bien. Et je vous lis 2 Chroniques 20, 32. Il marcha dans la voie de son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Jusque-là, Tout va bien, génial, il a fait comme Salomon, il a suivi son père. Pas de problème jusque-là. Mais, il y a toujours un mais, hein. Si on continue la lecture, verset 33, seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. On retrouve cela dans notre texte de 1 Roi 22, Josaphat avait 35 ans, tout au début du texte que nous avons lu. Il marcha dans toutes les voies d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Seulement, le mot qui brise tout, le mot qui casse tout, seulement, le mot qui tue. Tout était parfait, tout était impeccable. Il était un roi super. Seulement une chose. Verset 48, Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Ejjon-Geber. Peut-on déduire que le brisement de ces navires est une des conséquences de ce « seulement » Vous avez remarqué, les navires se brisent à Ejjon-Geber. J'ai insisté sur ce nom, là où ils sont construits. Ils n'ont même pas fait un kilomètre. Alors que pour Salomon, il parcourt près de 4000 kilomètres, pour Josaphat, pas un seul kilomètre. Il se brise soit en construction, ou il se casse quand ils sont mis à l'eau. Pas un. Leur port de départ est leur port d'arrivée. Et me dire en quoi ça nous concerne, c'est leur problème. Non. Pas vraiment. Nous sommes partis du peuple de Dieu, selon 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes des rois. Comme Salomon. Peut-être pas aussi riche, mais vous êtes des rois. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et il y a 15 jours, je vous parlais d'un camp que j'avais fait sur le thème « Mon bateau sur l'océan de la vie » et de continuer en parlant des divers bateaux on pourrait emprunter ou construire, celui des parents, celui de la connaissance, celui du mariage, du travail, de la richesse. Parfois l'embarquement de ces navires c'est dur, mais parfois il faut les prendre, et parfois ils vont très bien. Et comme l'a fait remarquer plusieurs, ces bateaux deviennent parfois de véritables galères. Les voyages peuvent subir de graves tempêtes et de graves échecs, mais dans le cas de Josaphat, pas un seul bateau, il n'a même pas fait un seul voyage. Les bateaux se cassent, malgré sa détermination de servir l'Éternel quand même. Il a quand même diffusé la parole, il a quand même essayé d'envoyer les Lévites, prêcher. Une seule chose, seulement. On pourrait bien retirer ce mot. Hein. Seulement, il a laissé des hauts lieux. En fait, c'est quoi ces hauts lieux? Dans la Bible, nous trouvons ce genre de lieux qui sont généralement des lieux de sacrifice, érigé sur des collines, ou si c'est dans une vallée, on fait un monticule, comme ça, on le voit bien, on le met au-dessus de tout. Et c'était une pratique courante dans la région du Proche-Orient, surtout les habitants de Canaan, de Moab, quand les Israélites sont arrivés, bon, c'était la catastrophe là-bas. Il y avait même des idoles telles que Moloch, où on offrait des vies humaines, des mamans apportaient leurs enfants pour avoir une bénédiction de Moloch, et on sacrifiait les humains. C'était des endroits de vénération, de grande vénération. Et bon, Abraham, lui, a quand même fait deux hauts lieux, mais pour l'Éternel, il a construit un autel à Sichem, à Hébron, et rappelez-vous, il est quand même monté sur la montagne de Mont Morija pour sacrifier son fils. Heureusement, Dieu l'a arrêté. Mais une fois que le peuple d'Israël est arrivé dans le pays d'Israël, dans le pays promis, c'était terminé. Il n'y a plus aucun autre haut lieu pour Dieu, seulement le temple de Jérusalem. Tous les hauts lieux étaient pour les païens, pour dédier aux dieux païens. Rien ne pouvait être fait autrement que pour Dieu, au temple. Et malheureusement, Salomon, à la fin de sa vie, généralement on voit Salomon comme un grand roi, comme un roi riche, un roi sage. Heureusement, tout est resté, c'est bien. Mais à la fin de sa vie, il a fait les frais. Lui aussi a construit de ses hauts lieux pour ses femmes étrangères. Il avait tellement de femmes qu'il n'en avait pas assez. Donc il a été à l'étranger en chercher, il a pris des femmes étrangères, mais ces femmes avaient des pratiques religieuses, et il a fait construire pour ces femmes des hauts lieux suivant la pratique qu'elles avaient, suivant leur religion. C'était sa condamnation. Dieu l'a rejeté. Salomon mourra, rejeté par Dieu, dans sa folie. Et là, je m'arrête, je me suis posé la question, et moi, et nous, quel haut lieu avons-nous laissé fumer un petit peu comme sacrifice? Quel haut lieu est resté dans nos vies qui dérange? Salomon et Josaphat étaient tous les deux des rois engagés pour la cause de l'Éternel. Ils voulaient servir Dieu. S'ils étaient bénis, c'était uniquement pour la gloire de Dieu. Tout devait revenir à Dieu seul. Mais hélas, ces hauts lieux ont miné leur vie. Leurs rêves, ils ont tout détruit. On oubliera pas certaines choses qu'ils ont faites, mais ce point négatif restera. Et ces hauts lieux étaient, hélas, vus de tous. Ils étaient restés en évidence sur ces collines, sur ces dessus. On les voyait, tout le monde les voyait. Tout qui du pays était là voyait ces hauts lieux. Et tout touriste qui passait par là, pareil, les voyait. Où était la gloire de Dieu? Ah oui, il fallait arriver au temple. En attendant, on voyait les autres aussi. Où était la gloire de Dieu? Devons-nous alors nous étonner que le bateau de Tarsis, de Josaphat, se brise et que le grand roi Salomon tombe dans la folie? L'Éternel n'avait ou n'a plus la première place. Oserais-je dire, et nous? Dieu a-t-il la première place? Quand les gens de l'extérieur nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce mon haut lieu ou mon temple? Que voient les autres? Jésus dira en Marc 4, 21, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier? Mettre notre lumière en évidence, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, bon, on peut dire, mais moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de haut lieu. Non. Le fait de dire ça, c'est déjà mettre l'orgueil très haut. N'est-il pas lui aussi un haut lieu? Une question pour le savoir, que je ne demanderai pas de réponse. Je ne vais pas donner d'exemple non plus comme ça. Qu'est-ce qui prend le plus de place par rapport à la gloire de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je tolère dans ma vie? Tolère. On parle beaucoup de tolérance maintenant. Hein. Il faut tolérer. Hein. Sinon, qu'est-ce que je tolère dans la vie qui ne me fait pas grandir dans ma foi? Et quand un non-chrétien me regarde, qu'est-ce qu'il voit en premier? Je me regarde dans la glace, je dis, qu'est-ce que tu vois là? Je ne vous dirai pas. Juste un passage de ma vie que je vais partager avec vous. J'étais technicien audiovisuel à Bruxelles. Et j'aimais mon métier. Et ça prenait énormément de place. Et j'étais entré dans une société audiovisuelle, là-bas, à Bruxelles, via une campagne Billy Graham qui avait loué des projecteurs. Ben, je vous passe tous les détails. Et je savais que je commençais là. À quelle heure je commençais la journée, mais je ne savais pas à quelle heure je la finissais. C'était parfois au resto, à 3h du matin, hein, pour se redonner un coup de pouce, puis on allait dormir, et puis recommencer le lendemain. Mais je faisais ce que j'aimais. J'aimais projeter, j'aimais l'audiovisuel. Je vénérais ma capacité au travail audiovisuel. Évidemment, avec l'argent qu'il rapportait. Hein. Mais quelle gloire pour Dieu. J'étais parti pour projeter des films pour Billy Graham, pour l'Église. Quelle gloire pour Dieu, quel témoignage ai-je laissé. Dieu a brisé mon rêve. Il a brisé mon bateau de rêve. Il a cassé mon bateau de Tarsis. Heureusement, il l'a bien fait, parce que je suis là. Sinon, je ne serais pas là. Peut-être que je serais retourné au Borinage. Peut-être que je serais resté à Bruxelles. Il l'a fait pour une bonne cause. La tolérance des hauts lieux dans nos vies, dans nos églises, laisser ces collines à la vue de tous, a aussi des conséquences sur notre relation avec Dieu. Pendant ces 3 années à Bruxelles, j'allais une fois toute la lune à l'église, mais ma relation. Mais elle a aussi des conséquences sur les frères et sœurs. Vous vous éloignez des autres. En vous éloignant de Dieu, vous éloignez des autres frères. Parce qu'ils ne pensent pas comme vous, évidemment. Alors il peut peut-être juger, hein. Ah, il voit aussi, hein, mon haut lieu. Oh là 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 là. Parce que ce n'est pas quelque chose de caché. Je ne parle pas de péché caché. Certains, on parle de péché caché, des choses qu'on dissimule. Non. C'est à la vue de tous. On voit ces choses. On sait qu'elles sont là, on les voit. Les bénédictions de Salomon et de Josaphat s'étendaient aussi à tout le peuple. Ce que nous avons laissé sur les collines, nos lieux, se propage aussi dans l'Église, se propage aussi dans nos frères. Il n'y a qu'une seule chose, notre sanctification et le nettoyage de nos lieux seront également des bénéfices. Aussi bien pour nous, pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour notre communauté. Et je ne ferai aucun jugement, je ne donnerai à personne la possibilité de s'exprimer, simplement de se regarder en soi. Et en conclusion, je vous invite à prendre ces versets. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Seigneur, devant ces paroles parfois dures, parfois qui nous remettent en question, parfois qui nous secouent, nous voulons nous mettre devant toi. Toi qui es la justice, toi qui es l'amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire le nettoyage de ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, montre-nous, éclaire-nous. Montre-nous ce qui doit être détruit, ce qui doit être balayé, ce qui doit être nettoyé, pour que tu puisses avoir toute la place. Que nous puissions grandir dans notre relation avec toi, dans notre relation avec nos frères, et que nous puissions être une église témoin. On ne met pas une lumière en dessous du lit où on la cache, non, on la met en évidence. Oh Seigneur, que sur nos hauts lieux puisse refléter un phare pour attirer les autres à toi, pour que ce bateau ne se brise pas, mais qu'ils aillent vers toi, au port désiré, et cela pour ta gloire. Amen.